bien, je suis content de vous retrouver ce matin. J'ai été personnellement très touché par le culte. Merci François pour l'introduction. Vraiment, je pense que Jésus a été honoré par nos prières, par nos chants, et on va continuer à l'honorer pendant ce court moment. Je pense qu'on va prendre une trentaine de minutes. L'heure est déjà bien avancée. Juste pour commencer, j'aimerais vous poser une devinette de veto. Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi et sur trois le soir? Vous savez? C'est l'homme. C'est un animal, l'homme. Oui, vous avez raison. C'est bien ça. Et alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il marche à quatre pattes le matin? Eh ben oui, le bébé, au début de sa vie, il marche, il ne sait pas bien marcher, donc il se débrouille comme il peut. Quand il est dans la fleur de l'âge, que je ne suis plus déjà, il marche sur deux pattes, je suis quand même debout sur deux pattes. Et le soir, bah, il faut parfois une petite canne pour nous aider. Et puis il y a un moment où on a fini, parce qu'on ne peut plus marcher. Voilà, on s'en va. Alors on sait, nous, vers quoi on va? Vers la demeure éternelle. Et Jésus lui-même a dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, il a dit « Marchez pendant que vous avez la lumière ». Il s'adressait aux foules, c'est peu de temps avant de fermer la parenthèse de la foule et de se retrouver avec ses disciples dans la chambre haute. Il a dit « Marchez pendant que vous avez la lumière ». Ça nous montre qu'il y a plusieurs manières de marcher, il y a plusieurs façons de marcher. Que ce soit au cours de la vie ou que ce soit dans la vie chrétienne, nous avons plusieurs manières de marcher. Et c'est justement ce thème de la marche chrétienne qui va nous retenir aujourd'hui au travers de la plume de l'apôtre Paul, puisque nous allons poursuivre l'étude de l'épître aux Colossiens. Hein, c'est la quatrième séance, je crois. Et donc on va reprendre l'épître aux Colossiens et on va ouvrir nos Bibles au chapitre 2. Mais avant de lire le passage du jour qui nous intéresse, j'aimerais vous juste à titre de rappel vous demander quel est le thème central de l'épître aux Colossiens. Si vous deviez résumer l'épître aux Colossiens en deux ou trois mots, qu'est-ce que vous diriez? Quel est le thème central finalement de l'épître aux Colossiens? Quelqu'un a une idée? C'est une petite épître, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Paul parle de plein de choses, mais si on devait garder... La marche avec Dieu. Oui, alors c'est un des thèmes, je ne dirais pas que c'est le thème central. Oui, alors c'est une lettre pour encourager les chrétiens. Oui, c'est une épître doctrinale, hein, plutôt doctrinale, bon, qui encourage aussi, qui aide à avancer, tout ça c'est juste. Mais le thème central, on est à Lyon, là, c'est la patrie de Rabelais. Vous savez, Rabelais parlait de la substantifique moelle. Hein, la substantifique moelle, c'est l'essence de l'essence, la quintessence. Non, pas d'idée? Alors je vais me lancer, pardon? Ouais, c'est on se rapproche. Christ au centre de tout, c'est pas mal ça. On peut faire même un peu plus court. Moi j'ai envie de vous proposer en Jésus seul. En Jésus seul. C'est le centre de l'épître. En Jésus seul. Toute l'épître est centrée sur Jésus. Et pourquoi est-ce que Paul, finalement, aborde ce thème? Parce que Paul n'est jamais allé à Colosse, on a vu. Paul est en prison lorsqu'il écrit, il est loin, il ne connaît pas les Colossiens. Pourquoi est-ce que Paul aborde ce thème, finalement? Quelle est la raison de l'écriture de l'épître aux Colossiens? Donnez votre langue au chat, encore des animaux. Eh bien, je pense que l'une des raisons, alors il y a certainement plusieurs raisons, hein, notre sœur a dit encourager les frères, l'une des raisons, c'est qu'il y avait des fausses doctrines qui se répandaient à Colosse. Hein. Il y avait des fausses doctrines, on parlait de la foi en Jésus-Christ, on parlait des doctrines du monde, on parlait de la philosophie, du paganisme, un peu de légalisme, un peu de mysticisme, on le verra dans la suite de l'étude, mais il y avait des fausses doctrines à Colosse. Et il fallait donc mettre les choses au point, et donc Paul met les choses au point avec les Colossiens. Et au fond, ça c'est les Colossiens, il y a plus de 2000 ans, et en quoi ça nous concerne? Il faut se poser la question, en quoi ça nous concerne qu'il y avait des fausses doctrines à Colosse? Bien, peut-être que de nos jours, il y a aussi des fausses doctrines qui circulent. Et notamment, l'un des problèmes des Colossiens, c'est qu'ils n'avaient pas compris que tout était en Jésus seul, et ils rajoutaient des choses en plus. Et aujourd'hui, quand on regarde, Ben, il y a plein de religions où on rajoute des choses en plus. Moi-même, par exemple, pendant 25 ans, je suis né dans une famille orthodoxe. Pendant 25 ans, j'ai pratiqué le culte orthodoxe, la liturgie. Ben, la liturgie orthodoxe, vous avez bien sûr Jésus, mais vous avez Marie qui a une place importante. Et puis, il y a un petit peu d'Ancien Testament. Si vous connaissez, si vous êtes déjà allé dans une église orthodoxe, ils ont construit ça un peu comme le temple. Il y a un lieu, un parvis, puis il y a un lieu saint, un lieu très saint. Il y a des règles où le prêtre, à un moment donné, rentre tout seul dans le lieu très saint, qui est fermé, puis à un moment donné, il s'ouvre. Alors, on symbolise des tas de choses. Il y a un vaste mélange d'Ancien et de Nouveau Testament. Et on oublie qu'en Jésus seul est la lumière. Hein, vous savez, ce chant-là, on le chantera peut-être tout à l'heure. Donc c'est un thème qui est actuel. C'est pas un thème, oui, il y avait du mysticisme, il y avait du paganisme. Aujourd'hui, la foi est attaquée en ce sens qu'on rajoute des choses à Jésus. Même parfois dans nos milieux évangéliques. Inconsciemment, on va rajouter des choses à Jésus. Comment est-ce qu'on peut rajouter des choses à Jésus, par exemple? Pardon? Les œuvres. Ouais, tout à fait. Il faut absolument que je vienne au culte ce matin. Hein, si je ne vais pas au culte tous les jours, Dieu ne va pas m'aimer. Et puis, voilà, bon, je vais être menacé. Voilà comment on rajoute à Jésus. Et finalement, la vie chrétienne, c'est toujours une marche étroite. Il y a une marche étroite entre, d'un côté, le légalisme, ce que je viens de citer, et de l'autre côté, c'est quoi? Le laxisme, la licence. Oh, on est libre en Christ, on fait ce qu'on veut. On va où on veut, on fait ce qu'on veut, après tout, toutes choses sont bonnes, disait l'apôtre Paul, etc. Donc c'est pour ça que ce thème est important, et aujourd'hui on va aborder ce thème de la marche. Alors, on ne va pas beaucoup avancer dans l'Épître aux Colossiens, parce qu'on va voir que deux versets aujourd'hui. Mais on va voir que ces deux versets sont vraiment essentiels. C'est Neil Armstrong, quand il a posé le pas sur la Lune, qui disait « un petit pas pour l'homme, mais... » un grand pas pour l'humanité. Alors, on va faire un petit pas, nombre de versets, mais on va faire un grand pas, doctrinalement parlant. Et donc, je vous invite à ouvrir l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, et on va prendre les versets 6 et 7. Alors, précédemment, très rapidement, on a vu, donc David nous a fait une introduction de cette Épître aux Colossiens. J'ai répété un certain nombre de choses parce que je pense que c'est bon qu'on se remémore un peu les choses essentielles. François nous avait traité la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La semaine dernière, Colin a traité devenir adulte. Hein, voilà, donc devenir adulte. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à comment marcher. Et on va voir donc comment on peut apprendre à marcher dans la vie chrétienne. Donc Colossiens chapitre 2, deux versets simplement. Alors, je vais lire ces deux versets dans la version... Genève 79. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que pour comprendre ces deux versets, on va aller ce matin un peu plus dans la structure du texte. Et si on paraphrase, si on prend la français courant, etc., l'essentiel du message est noyé. Donc je vais lire dans la Genève 79, la seconde révisée 79. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. C'est pas très long, hein. Au moins, on ne perd pas de temps à lire, c'est rapide. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment marcher sur ce chemin. Mais avant, on va prier pour demander au Seigneur qui nous aide et qui nous ouvre aussi le cœur, les oreilles et qui nous stimule notre foi. Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes devant toi, en ouvrant ta parole. Nous sommes conscients combien cette parole est précieuse, combien elle est riche. Quel cadeau tu nous as fait quand tu nous l'as donné. Seigneur, nous avons besoin de toi pour que tu ouvres l'intelligence de notre cœur. Et moi j'ai besoin de toi, Seigneur, pour que tu m'aides aussi à parler clairement de ce qui concerne de tous ces mystères de Christ. Seigneur, aide-nous ce matin et vraiment que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Amen. Donc, apprendre à marcher dans la vie. Alors, dans la compréhension de l'Épître, ces deux versets, pour moi, ce sont des versets clés, des versets charnières. Et on va voir comment l'apôtre Paul va s'y prendre, finalement, pour mettre en valeur ces deux versets. Alors, il va utiliser plusieurs moyens. Il va d'abord utiliser une structure en chiasme. On expliquera ce que c'est qu'un chiasme et on verra l'intérêt du chiasme. Alors, je vous ai dit, on va rentrer un petit peu dans la structure du texte. Et puis, il va centrer son propos sur Dieu, encore une fois. Hein, vous voyez, dans les deux versets qui nous concernent, trois fois il est cité, Jésus est cité trois fois, en lui Jésus, et une fois Dieu est cité pour abonder en action de grâce vis-à-vis du Père. Et puis, l'apôtre Paul va utiliser sept verbes. Il va utiliser sept verbes, donc un, le chiasme, d'accord ? Il va se centrer sur Dieu quatre fois, et il va utiliser sept verbes structurants. Alors, si vous les cherchez dans votre version, vous ne les trouverez pas forcément, parce que parfois les verbes sont traduits par des noms. Donc, on va aller un petit peu dans la profondeur du texte, et on verra que ces verbes, l'apôtre Paul, je pense qu'il les a utilisés sciemment. Alors, bien sûr, ce n'est pas lui qui les a... Je pense que le Saint-Esprit l'a vraiment inspiré, mais quand on voit ce qu'il a mis dedans, enfin, c'est juste en deux mots, comme ça, il faut 20 secondes pour lire ça. Mais je pense qu'il a dû réfléchir, il a dû être inspiré. Et puis Paul va utiliser trois métaphores. Il va utiliser la métaphore du végétal et de ses racines, il va utiliser la métaphore de la construction, et il va utiliser aussi la métaphore de la fermeté, la persévérance justement dans cette marche. Et on sait que quand un bébé apprend à marcher, il lui faut un peu de persévérance, parce que ce n'est pas du premier coup. Hein. Un bébé va faire un petit pas, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des petits pas, finalement, pour voir ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Alors, comment commencent ces deux versets? Il commence, très souvent, l'apôtre Paul, c'est vraiment un théologien, c'est un grammaticien, et il commence par des petits mots de liaison. Ainsi, donc, comme. Alors, souvent, on passe très vite là-dessus. Mais je pense que ces mots sont importants. Parce que le « ainsi donc », c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que Paul va dire maintenant, c'est la conséquence de ce qui précède. Et ce qui précède, c'est tout ce qui nous a été dit précédemment, c'est-à-dire la personne et l'œuvre du Christ, c'est ce que nous avait dit Colin la semaine dernière, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc Paul pose d'abord le cadre, hein, il va poser le cadre et il va mettre en garde également, parce qu'il va dire au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe. Et on verra que c'est important pour arriver au cœur du message, que Paul structure sa lettre de cette manière. Donc le ainsi donc, c'est la conséquence de tout ce qui vient d'être dit. C'est tout lié. C'est pour ça que c'est important toujours de voir un écrit dans sa globalité. Et puis il y a le petit comme, ce petit mot de liaison, c'est la conséquence d'avoir fait ce qui va suivre. Et qu'est-ce qui va suivre? Le comme, c'est vous avez reçu le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'adresse à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Il s'adresse à ces chrétiens-là. Même si plus tard, dans l'Épître, on le verra dans les fois suivantes, plus tard il va parler du centre du salut finalement. Quels sont les éléments de foi qui font qu'on accepte Jésus-Christ. Mais ici, il va s'adresser à des chrétiens mûrs dans la foi. Donc il s'adresse finalement à pas mal d'entre nous ici présents. Et il va commencer donc à utiliser un certain nombre de verbes. Mais avant, je vous avais dit, Paul va utiliser une structure en chiasme. Qu'est-ce qu'une structure en chiasme? Est-ce que quelqu'un connaît ce genre de choses? Je vous parle peut-être chinois ou hébreu, mais bon. C'est une structure assez particulière, en fait, qui sert particulièrement à mettre en valeur une idée. Ça sert à mettre en valeur une idée, je vais vous expliquer et on verra par la suite. Alors par exemple, on va prendre une idée D, hein, je schématise, une idée D que je vais mettre en valeur. Donc pour arriver à l'idée D, je vais d'abord émettre une affirmation de type A, ensuite une autre affirmation, donc ça c'est un verset, par exemple un autre verset, ensuite je vais mettre un troisième verset et je vais énoncer le verset D. Donc il va y avoir une progression, d'accord, jusqu'au point D. Mais pour renforcer la valeur de D, qu'est-ce que je vais faire si je veux faire un chiasme? Eh bien, je vais refaire derrière une affirmation C' qui va se refléter en miroir avec l'affirmation C. et ainsi de suite, un B et un B', et ainsi de suite, un A et un A'. Donc là, on a un chiasme, on a un chiasme à trois niveaux, mais on peut en avoir des beaucoup plus compliqués. Par exemple, tout à l'heure, Gérard a lu le prologue de Jean. Le prologue de Jean, c'est un magnifique chiasme sur 18 versets. Et de ce coup-là, le D, il n'est pas en valeur seule, il peut y avoir un double D parfois. Voilà, donc ça, c'est la théorie. Alors, quel est le chiasme de l'apôtre Paul? Voilà, vous voyez, vous avez l'aller et le retour. Et assez récemment, donc ça c'est utilisé déjà depuis très longtemps, hein, c'est un procédé littéraire que les Grecs à l'époque utilisaient, c'est pour ça que l'apôtre Paul l'utilise. Et aujourd'hui, très récemment, des linguistes ont étudié justement ces structures et ont montré que l'assimilation est facilitée, l'assimilation de l'idée est facilitée lorsqu'on utilise cette structure. Donc c'est un moyen pédagogique pour renforcer quelque chose. Donc s'il y a ce chiasme ici, c'est que Paul veut insister sur quelque chose. Et on va voir à quoi correspond le D. Et bien justement, le D, vous voyez ici, alors donc là c'est un chiasme plus simple, le D correspond à sept verbes que l'apôtre Paul veut mettre en valeur et qui correspondent à nos deux versets. Et vous voyez que le chiasme, il commence, je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui, il commence au verset, je vais me décaler parce que je ne vois pas l'écran, au verset 3, donc il affirme que Christ, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, et au verset 9 plus loin, on le verra la prochaine fois, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il pose le cadre finalement. Le cadre de la compréhension de notre verset d'aujourd'hui, c'est de comprendre que Christ a tout accompli, que tout est en lui, et il va répéter en lui, en lui, en lui, en lui. Exactement comme dans l'épître aux Éphésiens. Ce sont deux épîtres assez voisines finalement. Donc pour comprendre le verset du jour, pour comprendre comment marcher, il faut déjà comprendre que Christ a tout fait. D'accord? On reviendra là-dessus. Et donc ça, il nous donne une permission en quelque sorte. Il nous dit, Christ a tout fait, allez-y, profitez-en, appuyez-vous dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va poser une protection. C'est-à-dire, attention, si vous avez compris ça, et c'est ça l'objet justement, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul écrit l'épître aux Colossiens? Parce qu'il y a des fausses doctrines. Donc il met en garde, que personne ne vous trompe, etc., etc. Et au verset 8, le miroir, juste derrière, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines tromperies, etc. On le verra la prochaine fois. Donc, ces sept verbes, hein, alors vous les retrouvez, je vous ai dit, vous les retrouvez peut-être pas dans vos versions, parce que parfois ils n'apparaissent pas comme ça, du fait de la traduction. Mais on va aller doucement et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces sept verbes. Voilà, un aller et un retour. Alors, dans les verbes, là aussi, je pense que c'est pas volontaire. Il y a des verbes qui s'appellent actifs, des verbes actifs. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe actif? On fait un peu de grammaire, excusez-moi. Mais voilà, souvenez-vous à l'école primaire, qu'est-ce qu'un verbe actif? C'est voilà, le sujet fait l'action, d'accord? On fait l'action, on est acteur. Voilà. On fait l'action. Et il y a des verbes passifs. Qu'est-ce qu'un verbe passif? Eh ben, le sujet subit l'action. Alors en l'occurrence, on ne subit pas, d'accord, on ne se prend pas un coup de croix sur la tête, hein, mais le sujet subit l'action en sorte que on est au bénéfice de. En termes chrétiens, on parle, on est au bénéfice de. On est au bénéfice de sa grâce, de son sacrifice, etc. Voilà. Donc il y aura des verbes passifs et des verbes actifs. Alors regardez le code couleur. En bleu, on va faire les actifs et en rouge, on fera les passifs. Donc on va les reconnaître et on va commencer. Alors le premier verbe, eh bien, c'est le verbe recevoir. Comme vous avez reçu, d'accord? Donc, c'est un verbe qui est actif, d'accord? Et l'apôtre Paul parle donc d'une action ponctuelle. Alors, je vais dire un gros mot que je ne leur dirai plus. En termes grecs, ça s'appelle un aoriste. C'est-à-dire, un aoriste, c'est une action qui a été faite une fois dans le passé, ponctuellement, hein, un peu comme le passé simple chez nous. Quand on utilise le passé simple, c'est une action ponctuelle qui est terminée, qui n'a plus à être faite. Donc, vous avez reçu, il fait référence à des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, et donc c'est une action ponctuelle, c'est un état fait qui s'est produit dans le passé, qui est terminé. Donc c'est l'idée, quand on vient à Jésus, hein, on reçoit la vie éternelle, on reçoit tout un package, et on n'a plus à refaire. On n'a pas besoin à chaque fois de recommencer, de refaire des sacrifices comme l'Ancien Testament. Donc, le verbe reçu ici, il a un sens de prendre, d'emmener, d'apprendre. D'accord? Donc recevoir, c'est je prends, j'apprends, j'emmène avec moi. En l'occurrence, c'est quoi? c'est à un moment donné, je prends la décision dans ma vie de recevoir Jésus-Christ. Et pourquoi je prends cette décision ? Ben, tout simplement parce qu'un jour, sous l'action du Saint-Esprit, sous l'action de la lecture de la parole de Dieu, sous l'action du témoignage d'un frère ou d'une sœur, je comprends que je suis perdu pour l'éternité. Que mes bonnes œuvres, toutes mes bonnes actions, j'essaie d'être sympa avec mes voisins, de donner à la Croix-Rouge, etc., ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fossé. Il y a un fossé, ici on est sur le versant gauche, et sur le versant droit, ben, c'est Dieu qui est pur, qui est saint, et on ne peut pas passer. La seule manière de passer, vous voyez, c'est la croix qui vient se positionner, il y a un chemin qui est ouvert, et on peut accepter Jésus, il suffit juste de l'accepter, de prendre tout ça. Et Dieu nous réconcilie avec lui-même par Jésus-Christ. Voilà, Paul le répétera la fois suivante, la prochaine fois, plus loin dans l'Épître aux Colossiens. Donc, c'est une décision active de recevoir, ça a été fait une fois pour toutes, on n'en parle plus, ça fait partie d'un acquis. En France, on parle beaucoup des acquis sociaux, ça c'est un acquis pas social, mais c'est un acquis éternel. Voilà. Et ça ne nous tombe pas dessus par hasard. C'est qu'un jour, Dieu nous fait la grâce de nous choisir, et accessoirement, on accepte, on prend la décision de dire oui. Et ce qui sauve, ce n'est pas d'observer la loi ou les règles. Ce n'est pas de faire des bonnes œuvres ou des bonnes actions. On a cet épisode que vous connaissez bien, peut-être du jeune homme riche, qui vient, qui avait fait plein de choses magnifiques. Seulement le problème, bien qu'il ait eu fait des choses magnifiques, il avait encore ce souci de dire « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il n'avait pas compris. Jésus a essayé de lui faire comprendre. Mais bon, il avait un autre Dieu, il est parti tout triste parce que son Dieu, ce n'était pas le vrai Dieu, ce n'était pas Jésus. C'était pas le Père, c'était l'argent, exactement. Donc j'ai dit oui à Jésus-Christ au début de la marche. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit, au chapitre 6 et au verset 4, pour ceux qui prennent des notes, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Jésus est mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc recevoir Jésus, c'est commencer à marcher en nouveauté de vie. Mais il y a encore 6 verbes pour nous aider. Marcher en nouveauté de vie. Alors, Gérard, merci d'avoir lu le verset 12 de l'évangile de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'être humain est réconcilié avec Dieu. C'est la première étape de la marche chrétienne. Alors, la deuxième étape, yaka, marcher. Le deuxième verbe, c'est marcher. Marcher, alors marcher pas n'importe comment, c'est marcher en lui. Alors ici, on a également un verbe actif. C'est-à-dire, j'ai pris Jésus-Christ, j'ai pris ce qui m'offrait le salut, c'est gratuit. Et maintenant, je décide de marcher. Alors non seulement on a un actif, mais on a un temps qui est au présent. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, je marche tous les jours. J'avance tous les jours. On est au temps présent. Et c'est un impératif. Encore un peu de grammaire française. C'est un impératif, ce n'est pas un choix. C'est, je n'ai pas reçu Jésus, je m'assois et j'attends qu'il revienne. C'est, je commence à marcher. Et comment est-ce qu'on fait pour marcher ? Quelle est la première étape du début de la marche ? Un pas. C'est un pas. Oui, on se met en situation de déséquilibre, monsieur le mathématicien, ingénieur. 3 points, hein, je retiens, 3 points pour faire un plan stable. Hein. Voilà. Donc, quand je lève le pied, voilà, je me récupère sur un autre pied et on marche un pas à la fois. Alors, le verbe ici, qui est utilisé, c'est l'idée de progresser. C'est l'idée d'être en chemin. C'est l'idée de saisir toutes les opportunités. Il y a beaucoup de nuances dans le texte original. C'est l'idée de prendre toutes les opportunités. C'est ce que Paul dira plus tard aux Thessaloniciens. Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Eh bien, progressez encore. Donc c'est cette volonté de se mettre en chemin, de vouloir progresser. Mais c'est aussi l'idée de vouloir régler sa vie et sa conduite sur un modèle. Le mot « marcher » en grec sous-entend « régler aussi sa vie et sa conduite sur un modèle ». Vous savez qu'à l'époque, il y avait la notion de disciple-maître était très, très développée. Donc c'est l'idée du modèle. Et pour nous, le modèle, c'est Christ, la lumière, c'est marcher dans la lumière. Si on dit que Jésus est notre maître, est notre sauveur et notre Seigneur, hein, c'est ce que Jésus dira lui-même dans la chambre haute, après avoir lavé les pieds à ses disciples, il leur dira « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Donc, si moi je vous ai lavé les pieds, vous de même, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Donc c'est la notion de modèle. C'est la notion de vivre en relation intime avec lui. C'est la notion d'être en relation, de demeurer en lui, hein, comme le sarment qui est intégré au cèpe. Marcher d'une manière, dire d'une Seigneur. Et c'est marcher avec un pas à la fois. C'est pas la peine d'en faire des milliers, c'est pas la peine de courir, la vie chrétienne, c'est plutôt un marathon. C'est un pas à la fois pour arriver au bout, pour arriver à la couronne promise. Ok, donc deuxième verbe, marcher, premier verbe, recevoir, deuxième verbe, commencer à marcher, et retenez surtout l'idée du modèle. L'idée du modèle, il y a quelqu'un qui nous précède, qui nous a précédés. Jésus est venu sur cette terre, il a vécu comme nous, on l'a vu, enfin on ne l'a pas vu de nos yeux, mais on le voit au travers du livre, de la parole, et on règle sa conduite sur lui, on y reviendra. Le troisième verbe, ah, on change de couleur, vous voyez ? Là, on est dans un verbe qui est plutôt passif. C'est un verbe qui est plutôt passif et soyez enracinés. Alors, si on creuse un petit peu plus loin, ce verbe, il est au parfait. Qu'est-ce que c'est que le parfait ? Eh bien, c'est une action qui est de la même façon, qui a duré dans le passé et qui n'a pas besoin d'être répétée. Par exemple, tout à l'heure, on a chanté « Tout est accompli ». Tout est accompli. Tetelestai. Tout est accompli. C'est un verbe au parfait. C'est-à-dire, ça a été fait, il n'y a plus besoin de refaire. Donc, le soyez enraciné, ce que Paul veut dire, c'est que les racines, il faut les développer tout de suite. Quand on plante un arbre, on ne va pas planter l'arbre juste, et puis après, on va creuser un peu autour pour ajouter des racines. Quand vous plantez une graine, la première chose qui pousse, c'est les racines. Donc, il faut des racines solides. C'est la première métaphore de Paul pour nous faire comprendre que la marche chrétienne doit avoir des racines solides. Et ça, c'est important. Demeurez en moi, disait Jésus, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, être rattaché, c'est créer des racines tout de suite. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on fait dans l'Église ces enseignements fondamentaux sur le salut. Ça correspond à des racines. Chaque chrétien qui donne sa vie à Jésus-Christ est responsable de créer ses racines dans l'Église locale, en participant à des séminaires, en allant à des cours décentralisés, en participant à des cours sur Internet. Mais ces racines sont indispensables. Pourquoi ? Parce qu'on le verra tout à l'heure. Ça va de pair. Alors la souffrance crée les racines, c'est vrai que quand le vent souffle fort, les racines se développent. C'est un fait biologique, tu as tout à fait raison Françoise. Donc première des métaphores, soyez enracinés, c'est créer des racines. Comment on crée des racines ? Eh bien tout simplement en demeurant en Jésus. D'accord ? C'est en Jésus qu'on va créer ses racines, en lui, en Jésus seul, le centre de l'épître aux Colossiens. C'est chercher à le connaître, qui il est. Alors évidemment, il n'est pas à côté de moi. Comment je peux le connaître ? Au travers de sa parole. Je lis sa parole, au travers de la lecture, je comprends qui il est. Je comprends qui est Dieu, comment Dieu agit, les sentiments de Dieu, etc. La manière dont il pardonne, la miséricorde, la grâce, le pardon, l'amour. Tout ça, ça transparaît au travers de toute l'écriture, par des exemples, par des points doctrinaux. Donc c'est comme ça qu'on va créer des racines profondes. Le quatrième verbe, encore un verbe passif, c'est la notion de fondation, être fondé. Donc là, on change de métaphore, c'est la métaphore de la construction. Alors vous voyez, ça vous rappelle la deux maisons, hein. Vous vous souvenez de la parabole ? Ah, il y en a une qui est construite sur quoi ? Ouais, sur quelque chose de solide, et puis l'autre, elle commence à partir en vrille là déjà. Hein. Donc fondé, c'est la métaphore de la construction. On a encore une fois un verbe passif. Ça veut dire que les racines qu'on doit construire, en fait, c'est Jésus qui nous les donne. C'est passif, on n'a pas d'action à faire. C'est en nous ancrant en lui, en demeurant en lui, comme le sarment va demeurer dans le cèpe, que ces racines vont se fonder. Et de la même façon, les fondations, c'est un verbe de type passif au présent. C'est-à-dire, au quotidien, je vais fonder, d'accord, c'est le sujet subit l'action, je vais fonder ma foi, je vais édifier sur le fondement de Jésus-Christ. Littéralement, le mot, ici en grec, signifie terminer la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. Alors écoutez bien, la fondation a été posée, c'est Jésus-Christ. Le verbe est à la voix passive, c'est-à-dire on subit l'action, on est au bénéfice d'eux. Nous, ce qu'on a besoin, c'est l'actif marcher, recevoir et marcher. Et en marchant, en étant ancré en Jésus, eh bien, la fondation se construit comme ça. On n'a pas à faire des efforts pour construire. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'efforts en disant « je dois me gagner le salut, je dois faire ci, je dois lire 10 chapitres par jour, sinon je ne suis pas un bon chrétien ». Ça, c'est une vie d'efforts. Ça, on met le verbe à la voix active. Là, la fondation, elle est à la voix passive, puisque Jésus a déjà posé le fondement. Et l'apôtre Paul nous dira « faites attention avec quoi vous construisez sur le fondement ». De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça serait quoi, par exemple, pour vous, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses qu'on construit sur le fondement, ça serait quoi? Pardon? Alors ça, c'est la fondation. Mais la construction, une fois qu'on a posé la fondation, l'apôtre Paul, hein, c'est dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, hein, où il parle de fondation. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Je n'ai pas trop le temps de reprendre le texte, mais peut-être vous le connaissez. Qu'est-ce que ça pourrait être quand Paul dit « bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses » Ça serait quoi concrètement pour nous?
L'obéissance,
oui, la foi, l'espérance. Bon, ça, c'est des vertus, d'accord. Mais comme action concrète, construire, parce que construire, c'est concret. Hein. Qui est-ce qui a fait sa maison ici? Qui a fait sa maison là? Levez la main. Ben, c'est tout. Il n'y en a pas beaucoup. Vous n'avez pas fait votre maison. Quand on construit, enfin fait, quand je dis fait, c'est bien sûr c'est les maçons qui la font, mais participer à la construction. Participer à la construction, c'est j'amène des choses. Le fondement a été posé, mais moi j'amène des choses. Ben oui, ça peut être tout ce qu'on a dit, ça peut être la lecture de la parole, ça peut être entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ça peut être servir selon ses talents dans l'Église. Ça, c'est on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et inversement, Paul dit, on peut bâtir avec du foin, du chaume. Et à un moment donné, le feu vient et il reste que l'or et l'argent. Alors c'est quoi bâtir avec du chaume? C'est? Alors, des efforts, oui, ça peut être une activité décalée ou bien, une addiction. Je suis addict aux jeux, par exemple. Alors voilà, je passe mon temps à faire des jeux. Et ma vie chrétienne, bien sûr, j'attends Jésus, mais je passe mon temps devant la télé, par exemple. Je dis pas que la télé est pas bonne, hein. Mais si je passe mon temps devant la télé, je bâtis avec des pierres précieuses. Les écrans d'ordinateur, voilà. Voilà. Paul utilise cette métaphore de construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin et du chaume. Mais à nous aussi de l'adapter concrètement. C'est quoi pour moi l'or, l'argent et les pierres précieuses? C'est quoi le chaume, le bois, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Quand le feu vient, hein, et Jésus en parle, quand le feu vient, il ne reste que l'or, l'argent et pierres précieuses. Le reste, ça disparaît. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Retenez que la fondation a été posée et ma responsabilité, c'est de construire. Alors ensuite, le cinquième verbe, c'est affermi. Affermi dans la foi. Alors là, on a encore une voie passive. C'est-à-dire, le fait d'être affermi, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Je suis affermi dans la foi. C'est quoi être ferme? Eh bien, dans le texte original, ce mot affermi, il signifie quelque chose de sûr, quelque chose de véridique. C'est-à-dire, l'engagement pour Jésus, la foi en Jésus, c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose qui ne va pas nous lâcher. Vous voyez, là, cette personne là qui a tracé la ligne, il s'est laissé un peu distraire, il n'était pas ferme dans son tracé. Hein. C'est la métaphore de la fermeté et de la persévérance. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a eu une tempête, hein, ça a soufflé fort il y a 15 jours, 3 semaines. Vous avez vu, il y a des arbres pliés, pas assez fermes. Ils avaient les racines, on peut avoir les racines, mais si on n'est pas affermi dans la foi, c'est quoi être affermi? Eh bien, c'est que notre engagement pour Christ, il faut être persévérant. Il faut le tenir, c'est quelque chose de sûr et de véridique. Quand Jésus parle de la parabole du semeur, vous savez, les graines, il y a des graines, elles tombent, il y a peu de terre, ah, elles poussent tout de suite, et après c'est fini. Pas assez de fermeté. Donc si je m'engage pour Jésus, si je m'engage pour une action, si je m'engage pour quelque chose, je suis persévérant. C'est ça qui est dit. Mais affermi par la foi. La foi, elle affermit. L'apôtre Pierre nous dit qu'elle garde aussi, vous êtes gardé par la puissance de Dieu. Donc c'est la foi, c'est notre foi, c'est nourrir notre foi qui fait que nous serons fermes. C'est un verbe passif encore. Alors la foi, elle est représentée souvent dans la parole de Dieu par un bouclier. Hein ? Le bouclier, quelle est la taille de notre bouclier ? Est-ce que c'est un petit bouclier comme ça ? Ou est-ce que c'est un beau bouclier comme ça ? Ça, c'est le bouclier de la foi. Et comment elle se construit, la foi ? Donnez-moi un verset dans la Bible qui explique comment se construit la foi. Dans l'épître aux Romains. Au chapitre 10. Quelqu'un connaît le verset ? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle ne tombe pas comme ça. J'ai la foi, j'ai pas la foi. La foi, elle se construit dans la parole.
Bien.
Au travers des épreuves, etc. Mais la foi se bâtit dans la parole de Dieu. Et Paul dira aux Corinthiens aussi, notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Hein, toujours pareil, la voix passive. Vous voyez, finalement, on a peu de choses à faire directement. Tout le reste, tout ce qui est en rouge, c'est on est au bénéfice d'eux. D'accord ? Donc, affermi. Et le sixième verbe, alors celui-là, il n'est pas souvent là. Dans ma version, par exemple, c'est d'après les instructions qui vous ont été données. Hein. Tous ces verbes, ils existent dans le texte grec, mais ils sont traduits différemment. Hein. Donc, enseigner, c'est pareil. Enseigner, c'est un verbe qui est à la voix passive. D'accord ? Ça veut dire que, littéralement, ça signifie faire assimiler, exposer quelque chose. Donc, encore une fois, il faut aller à l'enseignement, mais l'enseignement, c'est quelque chose qui nous est donné. Elle nous est donnée comment ? Il nous est donné comment ? Par la parole de Dieu, par des serviteurs que Dieu va oindre de son esprit, il va donner des dons spirituels, des dons d'enseignement, qui font qu'à un moment donné, nous serons enseignés, voie passive. Le verbe grec, d'ailleurs, qui est utilisé, c'est le verbe didasco, qui a donné le mot didactique. Vous savez, didactique. Quand je présente quelque chose de manière claire, j'expose de manière didactique. Ben c'est ça. L'enseignement, c'est exposer la parole de Dieu de manière claire et didactique, de manière à ce qu'elle soit comprise, assimilée et prise en compte. Donc c'est un passif, encore une fois. Et enfin, on arrive au septième verbe, c'est abonder en action de grâce. Donc abonder, là, c'est un participe. C'est pour ça qu'on utilise en abondant. Certaines versions disent abonder, mais la Darby, qui est un peu plus juste, traduit par un participe. Donc, et ce participe se rapporte à la foi. Hein. Je prends la traduction Darby. Il nous dit littéralement abondant en la foi avec action de grâce. Donc l'action de grâce, vous comprenez tous ce que c'est que l'action de grâce, on remercie Dieu le Père pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Cette action de grâce, elle peut se faire au moyen de la foi et doit se faire généreusement. Donc comment est-ce qu'on peut rendre abondamment des actions de grâce à Dieu le faire ? Par la foi. Eh bien la foi souvent fait référence au passé. C'est notre expérience, on a vécu telle chose, et au travers de cette chose qu'on a vécue, on a compris quelque chose de la facette de Dieu. Donc on va utiliser cette expérience pour bâtir notre foi. Et cette foi-là nous permettra de lire certaines circonstances, non pas comme des boulets, non pas comme des catastrophes, mais parfois comme quelque chose de, voilà, une action de grâce. On remercie Dieu parce qu'on voit au-delà l'intention de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Personnellement, moi, quand je suis rentré dans l'industrie, j'ai dû faire 3 ans de commercial. Certains connaissent mon histoire. Pendant 3 ans, j'en ai vraiment bavé, j'ai parcouru les routes de France. Je n'étais pas doué pour le commercial, ça ne me plaisait pas du tout. Et c'était vraiment dur pour moi. Et combien de fois j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé là? Moi, j'ai un autre métier et tout, et pourquoi tu m'as pas laissé tranquille? Et maintenant, je peux, par la foi, parce que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé là, je peux abonder en action de grâce, en disant, Seigneur, tu es vraiment sage, parce que tu m'as envoyé là, et j'ai tellement appris, Seigneur, j'aurais jamais pu l'apprendre, ni au travers des livres, ni à l'université, ni nulle part. C'est ça, abonder par la foi en action de grâce, pour Dieu le Père. Et là, vous voyez qu'on passe en bleu, donc abonder en action de grâce, c'est la notion de générosité, et là, il faut actif, encore une fois. Finalement, on a trois verbes actifs. On a recevoir, on a marcher, et on a abonder en action de grâce. Voilà. Donc, rapidement, parce que l'heure passe, en résumé, hein, nous avons tout reçu en Jésus-Christ et par lui. Souvenez-vous du centre de l'épître aux Colossiens, en Jésus seul et par lui. Tout a été donné, déjà. Deuxièmement, nous avons un modèle en Jésus, d'accord, à imiter, marcher derrière le modèle. Et puis, Dieu nous donne des ressources. Nous avons la parole de Dieu, il faut l'ouvrir. Nous avons l'Esprit Saint, il faut être sensible à cet Esprit Saint qui est en nous, qui habite en nous. Et puis, nous avons la communauté pour nous exhorter réciproquement, comme dit l'Épître aux Hébreux, afin que le jour, afin, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et je voudrais terminer en vous laissant cette citation. On parlait de marcher. Hein. C'est une citation de James Irwin, qui était un des 12 astronautes américains qui a marché sur la Lune, donc après Neil Armstrong. Et James Irwin s'est converti. Hein. Il s'est converti au cours de ses missions. Je crois qu'il a même, il était venu en France. Il y a des cassettes vidéo qui circulent. Et voilà ce que James Irwin dit. Le plus grand pas, finalement, et c'est ça qu'il nous faut comprendre en point numéro 1, le plus grand pas, c'est que nous avons Dieu qui a marché sur cette terre en la personne de Jésus, et c'est lui que nous devons imiter, personne d'autre, parce que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui est parfait. Voilà, je suis en train de lire un livre de David Pickman qui s'appelle Détox, et en fait qui revient sur les 21 habitudes de Jésus qui nous libèrent de la religiosité, qui nous libèrent de l'activisme, de manière à agir de manière juste. Et c'est vraiment, il invite, il est en anglais simplement, il n'a pas été traduit en français encore, mais David Putman invite à remettre Christ au centre de notre vie. Et par exemple, à un moment donné, quand Jésus dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'homme », ce qui veut dire par là, c'est que Jésus nous invite vraiment à le suivre, alors que très souvent, on se fait un Jésus ou un Dieu à notre image. C'est nous qui l'invitons à venir pour répondre à nos besoins. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il aborde, 21 habitudes saines de Jésus, et dont cette habitude-là, c'est quand on invite Dieu, quand on invite Jésus dans notre cœur, c'est pas pour répondre à nos besoins, c'est pas pour nous servir, c'est pas pour répondre à nos petites prières égoïstes, même si parfois elles sont légitimes, mais c'est pour le suivre, parce qu'il a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes ». Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci à tous.